Maurice Rollinat, musique. Subjugué, possédé, ensorcelé par lui, dans tous les replis de mes fibres et de mon esprit, dans toutes les sensibilités de mon être, je crie bien haut que le grand Wagner est encore plus que le magicien des sons, puisque dans leur tempête, leur délire, leur démence représentant la fougue brutale et la mélancolie des choses, chanter, clamer, gémir les amours, les regrets, les pensées, les êtres. Et je le trouve d'autant plus grand que pour moi ces idées transparaissent précises, rutilant miroir de sa pompeuse formule, avec leur signification expresse, dans la plus limpide intelligibilité. Je suis tout le détail, toutes les nuances de son sentiment à travers le serpentement fantasque et omnicolore de son enveloppe de sonorité et d'harmonie toute puissante. Sous la houle de leur mugissement, la brume de leur murmure et la vapeur de leur soupir. Certes, j'aime et j'admire ces prodigieuses musiques polyphoniques où avec toutes les intonations du drame et de la passion, tout l'expressif des gloires et des triomphes ondule et se déploie orageusement comme de vagues frissonnantes l'innombrable tourbillement des notes tour à tour isolées, molles, tranchante, rapprochée ou lointaine, combinée et fondue, et je me laisse emporter par leurs frôleurs rouants et précipités qui tourbillonnent et se balancent. Oh, mon âme se baigne dans ces ouragans harmonieux qui l'abrassent, la torde, l'engloutisse au gouffre pour la ressoulever jusqu'aux cimes. Mais s'il n'y avait que des symphonies orchestrales, quelle musique resterait donc retirée du monde qui cherche et trouve précisément dans ses couleurs, ses folies, ce passionné, ce rire et ses larmes des sons, l'aliment et l'expression de leurs rêves. Heureusement pour eux que, s'égrenant toujours, surnaturel en leurs souvenirs, tel chant lugubre ou séraphique peut les bercer dans leur tristesse, et qu'un pauvre petit clavecin leur peut encore exhaler le gémissement d'une éternelle phrase toujours nouvelle. Tant il est vrai qu'au rebours des dilettantes et amateurs qui présentent, prétendent et semblent n'aimer que les volumineuses auditions qui ne retiennent pas, il faut aux poètes des musiques parlantes, installées comme des remords au plus creux de son âme, qu'à toute fleur et partout, il retrouve et représente, s'appropriant, s'adaptant par là même à toutes les phases de son cœur, à tous les délires de la continuation fantastique, à tous les états de sa pensée, tant elles sont, pour ainsi dire, la continuation fantastique, le prolongement dans le songe. La lune remplit le ciel sans son cortège d'étoiles, et la profondeur des nuits est peut-être plus solennelle de cette solitude de son astre. Ainsi, un seul chant divin suffit à combler le vide d'une âme, à peupler magnifiquement le désert d'un cœur. Oui, sans vouloir déprécier l'imposante et tumultueuse beauté des grands concerts d'orchestre, On peut dire qu'ils comportent mieux le monde que sa retraite, qu'ils sont plus faits pour l'homme de la vie en public, sociale et artificielle, que pour celui de l'intimité sauvage, discrète et recueillie. Le sensitif, bien réduit à son seul individu, aimera mieux, sans doute, quelques musiques une et unique de suggestion intérieure, de mentale signification, nuancée seulement par son accent d'âme, par le singulier et l'étrange saisissant de son uniformité, par l'impressionnante monotonie de son mode mineur, se dessinant comme un songe dans son imprécis, dans son vague, errante, perdue et solitaire, comme lui-même. Assurément, cette musique-là, interprétant en soliloquence sa propre conscience, il devra la préférer à tous ces foisonnements de somptueuses sonorités, trop fugaces, trop vaines, trop confuses, malgré tant de grondements de notes, de clameurs, et pour ainsi dire, du panoramique, en ce sens qu'elles sont à l'oreille ce que sont les immenses fouillis paysagiques pour le regard qui les embrasse sans les distinguer nettement, et qui, venant de les voir, ne saurait se les représenter. Rien ne vaudra pour l'homme bien enfoui dans sa tristesse une certaine simple mélodie, rendant à elle seule tous les frémissements des alarmes, criant l'agonie d'un rêve, la mort d'un amour, chant pleuré, gémissante parole, sans mots prononcés, mais où se raconte un tel deuil et communicatif d'un regret prostré, d'une pensée inconsolable. Le mélancolique abandonné bénira cette phrase aiguë, insinuante, pénétrant au plus profond de son cœur, partant de sympathique et séminaire vocation. Il sera bercé, consolé, ensorceleusement charmé par un lamento de Chopin, ce fantasque génie morbide et fatal, par un mélodique sanglot, frisson tragique, chantant d'abord l'instinct, son délire, sa passion, sa peur et sa torture. N'y a-t-il pas telle musique qui, note à note, si chagrine et d'une si fondante affliction, semble faire tomber dans votre âme un délicieux goutte à goutte de pleurs qu'elle aspire et qu'elle boit comme ses propres larmes? Ils se suffisent à eux-mêmes, tous ces airs divinement humains, qui sont, à chaque sentiment d'ordre amoureux et tendre, triste et poétique, angoisseux et navré, ce que le dies irae est pour nos impressions mortuaires, pour notre effroi de la tombe. Et lui aussi s'en passe d'accompagnement, le terrible psaume. Dans sa courte et grêle, mais si hagarde, glaçante nudité, il est complet d'horreur, saturé d'épouvantable, tout seul. Si à voix basse qu'il soit psalmodié, il impose au rêve de la vie l'atroce réalité de la mort ressentie et souverte. Il nous rend cadavre en pensée, imaginairement, en le reblon hideux, si étroitement hermétique, nous fait endurer la double geôle et les troubles ténèbres du cercueil et de la fosse. Et elle, sans nulle magie, des orgues, il demeure la sentence du néant, le ricanement du vide, le cri sourd de la terre qui saisit sa proie, s'entr'ouvre et se referme. Il n'a besoin que ces quelques notes pour clamer à l'univers le définitif jamais plus, pour retentir au plus intime de nos consciences, à sa foi comme le suprême et déchirant adieu de toute chose, comme la dernière plainte de ce qui reste de l'homme et comme le dernier sarcasme de sa destinée, l'harmonie des corps brandit, berce, exalte et glorifie les phrases musicales, hautes et sublimes, révélatrices des sentiments et des songes, ruminées, gestées, dit ainsi, de façon suprême, d'être nommés les chants quintessentiels d'un esprit et d'un cœur, par la précision de leurs vagues, le délire de leur tendresse et la profondeur de leur spiritualité, quasi divine, quand elles collaborent jumellement avec d'admirables mélodies vécues et pensées, l'harmonie, en dépit de toute la sorcellerie d'artifice de ces combinaisons, demeure humaine, quoi qu'elle fasse, qu'en prétendant se suffire à elle-même, jusqu'à se croire toute la musique, elle l'accompagne et se confonde, en les drapant de ses richesses, que des chants conventionnels, en quelque sorte extérieurs, par rapport au fond de l'être humain, empreint d'influence d'école, de mode et de dissociabilité, ou si incertain et insaisissable, si vive qu'on ne les retrouverait même pas si on voulait les décalquer et défalquer de leur grandiose entour et désenvelopper de leur sonore luxuriance, de leur splendeur et magnificence d'accord, toute musique qui, l'orchestre ou le piano parti, demeure brouillée dans le souvenir, au lieu d'y rester claire et bien chantante, mélodiquement savourable, n'est due qu'au seul savoir, au seul talent professionnel, à la maîtrise de la science, mais ne relève nullement de la souffrance intérieure, du drame enduré, du cri et de la trouvaille naturelle de l'âme. La mélodie, oh, on veut la suivre sur le tumulte des sons, comme la voile blanche sur le moutonnement des vagues, de même que les vêtements ajoutent à la beauté d'une forme, mais ne la lui confère pas. De même, les accords ne sont que l'ornement d'une mélodie, l'harmonie que la parure d'un chant. Mais chant et mélodie peuvent et doivent exister intégralement par eux-mêmes, justement parce qu'ils sont le germe et l'ossature, le corps et l'âme, l'essence même de la musique. Ce qui fait si grand Beethoven, Chopin et Schumann, c'est que leurs toutes-puissantes idées musicales pourraient se passer d'ornements, qu'elles sont complètes à elles seules, et qu'ainsi dévêtues, cris, plaintes, grondements, rires et hosanna, elles vous poursuivent dans le réel comme dans le rêve, vous hantent, vous possède comme l'idéale expression de la vie des choses et du frissonnant mystère de tous les êtres. C'est que par elles, en vous silencieusement murmurantes, au plus enterré des déserts et des ténèbres, ils peuvent encore vous parler leur âme, leur grande âme triste et solitaire, peut-être plus divine, toute instinctive et toute nue, que revêtue de toute la fastueuse féerie de leur harmonie surhumaine. Cela même était des songes de la nature, des pensées de l'infini, des voix de l'éternité. Ils aimaient leur art comme ils aimaient l'espace et la nuit, et ils auraient pu, sans labeur, épancher leur génie sauvage, car leur cœur dominait leur esprit, leur inspirait, en commandait leur science. Et si quelques-uns ont été les grands musiciens de la poésie, eux seuls furent et seront à jamais les trois grands poètes de la musique.